Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Comment apprendre à votre enfant à faire du vélo sans les petits trous?
Chute terrible il y a quelques instants sur les routes du Tour du Pays Basque à 35 km de l'arrivée.
La première clé, en fait, c'est que ça doit venir de lui-même. Faut qu'il ait envie de faire du vélo sans les petits trous.
Jonas Vingegaard est au sol, Primoz Roglic est au sol, énormément de coureurs qui sont partis à la faute.
Très clairement, il y a une augmentation de la vitesse qui est exponentielle ces toutes dernières années. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
La deuxième clé de réussite, ça va être de commencer dans l'herbe. Tout simplement parce qu'il va tomber et il tombera dans l'herbe. Il se fera moins mal que sur le goudron.
Chute. Oh, Romain Cobol, il était derrière. Lui aussi a volé.
Les coureurs en position 4-5, ils ont commencé à glisser. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
La troisième clé, ça va être justement d'être dans l'optique qu'il va tomber.
C'est terrible. Un carnage. Tout simplement,
on ne peut pas continuer comme ça. C'est plus du vélo, là. Donc il faut qu'on change. Qu'on soit capable de dire ça ne va plus. Mais il faut qu'on le fasse. Parce que si on ne le fait pas, un jour, on va avoir des morts.
Je suis tombé.
Alors, mesure ou mesurette? Telle est la question après les annonces de l'UCI mercredi pour renforcer la sécurité lors des courses et donc de protéger les coureurs. Et c'est vrai que les chutes à répétition de ces dernières semaines, notamment lors du Tour du Pays Basque, ont enfin fait réagir la plus haute instance. Le peloton, les directeurs sportifs, les organisateurs réclamaient un électrochoc pour éviter des drames. Ils ont eu des mesures, notamment l'introduction du carton jaune ou encore une réflexion sur la restriction des oreillettes qui pouvaient perturber les coureurs. Des mesures qui vont être testées ces prochains mois. La musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce vraiment une révolution, une réponse tant attendue après ces chutes, révolution par révolution? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
David Douillet?
Oui.
Marie Martineau?
Non, clairement pas.
Denis Charvet?
Oui.
J'ai deux oui, deux non. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgan Maury. Salut Morgan.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Hello Morgan.
Alors,
salut
quelles Morgan. Sont les mesures phares de l'UCI?
À partir du 1er août, il n'y a pas que le maillot qui sera jaune en cyclisme, mais aussi les cartons. Les coureurs vont découvrir les cartons jaunes comme dans les sports collectifs. Les cyclistes, mais aussi les directeurs sportifs, les suiveurs, les journalistes, les pilotes moto, ils sont tous visés par cette mesure qui rentrera en phase de test à partir du 1er août sur les courses World Tour hommes et femmes et aux Jeux Olympiques aussi. La personne coupable de l'une des 20 fautes recensées par l'UCI écopera d'un carton jaune. Par exemple, s'accrocher trop longtemps à la portière de son directeur sportif. De carton jaune lors d'une même course d'un jour ou d'une course à étapes, 7 jours de suspension, 3 cartons en un mois, la punition grimpe à 14 jours, 6 cartons dans l'année, c'est un mois. Le carton jaune ne devrait pas être tendu par un commissaire, mais plutôt annoncé par radio. Ces suspensions n'entreront en vigueur que début 2025 à la fin de la phase de test. L'Union Cycliste Internationale envisage aussi d'aller vers moins d'oreillettes. Elle précise que c'est une distraction, un danger physique aussi, car la radio est placée dans le dos des champions et certaines situations peuvent être sourdes de chute. L'UCI planche également sur l'élargissement de la règle des 3 km à 5 km. Objectif, faire diminuer la tension du groupe de tête. On rappelle ce que prévoit cette règle. Un coureur qui chute dans les 3 derniers kilomètres sera classé dans le même temps que le groupe auquel il appartenait au moment de son accident. Les accidents graves ont marqué les esprits cette année. La chute collective du Tour du Pays Basque qui impliquait Jonas Vingegaard, Primoz Roglic et Remco Evenepoel est restée dans les mémoires.
Merci beaucoup Morgan Maury pour toutes ces précisions. Est-ce vraiment une révolution? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, vous le savez, hein, nous sommes à 2 semaines du Tour de France, donc c'était important de faire ce débat, d'autant qu'au mois de mars dernier, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Enfin des mesures, révolution par révolution. Simon Dutin, c'est non.
D'autant plus important que ces sanctions ne verront pas le jour pour le Tour de France.
C'est
donc,
ça.
Vraiment, on est
fou.
Donc on ne peut pas parler de révolution. Si c'était si urgent que ça, on le mettrait en place immédiatement. Non, je pense que c'est un retour. Il y a, dans ce qu'a énoncé Morgan, une certaine forme de logique. Je pense au reclassement des mecs qui tombent dans les derniers kilomètres. Ça paraît juste fair play pour eux. Je pense surtout que ça roule énormément plus vite qu'à une époque. Donc oui, c'est une façon de sensibiliser les coureurs. Moi, ce qui me dérange, c'est que en fouillant un peu, on comprend rien en fait à ce nouveau système de sanctions. Ce que j'ai juste compris, c'est qu'il y aurait pas un arbitre en noir qui brandirait un carton, tu sais, par le toit de la bagnole en disant non.
Non, ça interviendra après la course. Ouais.
Même si il y a quand même une similitude avec le système du foot, parce que si t'en as deux dans la même course, bon, t'es exclu. Après, ce système de suspension, il est un peu nébuleux. Si t'en as trois dans une certaine période, ça suspendu
c'est
une semaine.
Ouais.
Suspendu une semaine, c'est quoi finalement? Tu rentres t'entraîner à la maison. champion plutôt que de te taper.
Pendant un Tour de France, ça peut poser problème.
Oui, oui. Il y a trois courses dans l'année. Je suis pas, j'ai pas l'impression que ce soit sur les grands tours que les problèmes se posent le plus fréquemment. Ce qui me plaît, c'est l'abandon des oreillettes. Moi,
alors on n'y est pas.
Mais attends, on n'y est pas du tout.
Je veux dire, c'est un début d'amorce. Ça a été la religion des oreillettes et on a suffisamment pour certains critiqué l'omnipotence, l'omniprésence de la communication par les oreillettes. Moi, je suis tombé dans le cyclisme à une époque où les mecs roulaient en casquette et sans oreillettes. Et je pense que je pense que les mecs qui sont dans le cyclisme depuis longtemps attendent ça. Ça m'étonnerait pas que.
Donc, fallait frapper un grand coup. Et pour toi, c'est pas le cas du tout.
Voilà une forme de logique. Faudrait éclaircir un petit peu quoi quand même.
Mais déjà le fait de prendre ces mesures, pour moi, c'est une révolution. Parce qu'il faisait rien depuis longtemps. Je sais que Marc Madiot était en colère parce que justement, par rapport à la vitesse, on faisait rien. Là, on va mettre des cartons, même si c'est un peu flou dans la mise en pratique. Je trouve quand même que c'est des mesures qui sont bien parce que ça va mettre les coureurs devant leur responsabilité.
Non, mais tu le dis, c'est flou. Excuse-moi du peu, mais s'il y a bien un terme qu'on peut pas employer en sport
flou
de niveau.
Dans le sens
mais tu as raison, c'est flou. C'est flou. C'est pas possible de mettre des nouvelles règles qui soient floues. Ah, excuse-moi, oui. David, mais alors les sanctions, on n'a pas tout compris.
Non, attends,
elles seront données
rien.
Plus tard.
Mais si, parce qu'il te le dit quand même. Il te dit un carton jaune, il te dit si.
Mais alors quoi,
il y a quand même des mesures qui sont claires aussi.
On a des caméras partout, on est vraiment capable de suivre une course de bout en bout pour distribuer les cartons de manière équitable. Je ne suis pas sûre qu'on soit vraiment pas en rupture d'équité. Et pour ce qui est des oreillettes, excusez-moi, mais si les deux leaders gardent de toute façon une oreillette, ça ne devrait pas foncièrement changer les choses. On voit des différences quand on a des courses complètes où il n'y a pas d'oreillettes, type championnat du monde, ces choses-là, mais sans ça, je ne vois pas trop le...
Championnat de France, championnat du monde, ça existe, hein, les courses sans oreillettes,
ouais,
mais elles sont...
C'est bah, souvent des belles courses en plus.
Et ouais, ça fait des belles courses.
Ok, si c'est une révolution, David Douillet.
C'est une révolution parce qu'au moins il y a quelque chose qui est fait et qui est fait pour... En fait, le truc, c'est quoi? C'est de faire prendre conscience aux coureurs que maintenant... ils vont être responsables de leurs actes dans ce qu'ils font. Les gars, faites attention à ce qui se passe. Et maintenant, on fait plus n'importe quoi, on donne plus des coups d'épaule dans le peloton, on fait attention, on regarde devant sa roue, etc. Parce que c'est souvent des fautes d'inattention. Donc c'est les gars où, attention, il faut être plus concentré. Mais ça va pas assez loin, là je suis d'accord. Ça va pas assez loin parce que c'est trop long. Là, on aura des sanctions qui seront effectives en 2025. Ça aurait déjà dû être pris dès le dernier Tour de France, compte tenu de ce qui s'est passé. C'est trop long. Voilà. Il faut protéger les coureurs. Puis moi, il y a un deuxième truc qui est pas traité, et c'est dommage, sont les écrans. Et Marc en avait parlé aussi. Je veux dire, quand on a l'œil à un moment donné sur un écran pour vous indiquer votre puissance, vos tours de roue, vos tours de pédale, vos tours de je sais pas quoi, peu importe, eh ben, c'est une demi-seconde, une fraction de seconde d'inattention où vous avez pas les yeux, sur la route ou sur le type qui est devant vous, etc. Donc, là, c'est source aussi, à mon sens, de dangerosité au sein du peloton. On parle des oreillettes, mais moi je pense que c'est beaucoup plus significatif et accidentogène que d'avoir n'importe quel type d'écran sur son vélo. Voilà, sincèrement, aujourd'hui, on parle de connectivité avec des lunettes connectées, avec des oreillettes, etc., etc. Mais quand on baisse la tête pour regarder quelque chose, on l'a pas sur l'horizon, sur ce qu'il y a devant soi.
Ah.
On nous appelle. Ça veut dire qu'une GG nous appelle. Elle est en train de nous écouter. Elle veut réagir à notre débat. J'ai Jérôme Pinault. Il y a Marc Madiot. Ou peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être c'est Marion
Bartoli
qui veut nous parler. On décroche. Allô, c'est qui?
C'est qui? C'est moi.
qui a reconnu la voix?
C'est Marc.
C'est évidemment Marc Madiot. Marc, on est ravis de t'avoir dans cette émission. Participe à notre débat. Est-ce que c'est vraiment une révolution? Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Déjà, je vais vous dire un premier truc qui n'a pas été souligné, c'est que la petite affaire nous coûte quand même 800 000 euros à la famille cycliste. On a mis 800 000 euros dans le Nourin avant de commencer pour qu'on nous trouve des mesures. Donc c'est quand même le minimum qu'on ait quelques mesurettes qui sortent aujourd'hui.
Mais comment ça veut dire 800 000 euros pour faire quoi? Pour décider de mettre des cartons?
Il a été mis en place une structure, une commission, une commission pour trouver des solutions pour réduire les chutes et les accidents sur les courses cyclistes. Mais il y a un coût avant de commencer, c'est de 800 000 euros par an.
Vous êtes fait mettre une carotte, là, ils sont partis en vacances avec
votre pour payer quoi
c'est vous qui réfléchissez.
Pour réfléchir.
Pour payer des gens qui réfléchissent à nous trouver des solutions.
Ça coûte cher.
Non, mais c'est une blague. C'est une blague.
Mais c'est la réalité.
Il a raison.
Mais c'est la réalité.
Ce sport est incroyable.
On a mis de l'argent pour essayer de trouver des solutions pour la sécurité. Bon, une fois ça, c'est dit. C'est
Ok, ça, c'est le premier coup de gueule. C'est on a mis de l'argent pour nous pondre des mesurettes. Maintenant, sur les mesurettes en question.
Bah, les mesurettes en question, moi, je trouve qu'ils sont allés d'abord à la solution de facilité. Ils s'en prennent d'abord aux coureurs. Ils sont les plus faibles. Voilà. Qui sont les premiers. Parce qu'on s'en prend pas. Le problème principal des chutes, au-delà de tout ce qui a pu être dit, c'est quand même la vitesse. C'est quand même la vitesse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qui est proposé ou avancé comme solution, je ne vois rien qui réduit la vitesse drastiquement des vélos et de l'évolution des coureurs. Ça, c'est le premier point. On ne s'attaque pas à ce sujet-là. On ne s'attaque pas non plus au sujet des mini-ordinateurs qu'ont les coureurs aujourd'hui sur leur vélo. Aujourd'hui, pourquoi ça va vite dans certaines zones de descente? Tout simplement parce que les coureurs ont un GPS sur le vélo. Le GPS leur dit si le virage se referme ou ne se referme pas, s'il est en épingle à cheveux ou pas. Donc, ils sont en permanence le nez sur leur écran, tout en descendant à plus de 100 km/h des pentes vertigineuses. Donc là, il y a quand même aussi un problème. On commence le début du commencement, voire même d'une solution, à dire on va limiter les oreillettes, mais on ferait bien aussi de s'attaquer à l'utilisation des capteurs de puissance. J'ai rien contre les capteurs de puissance en termes d'entraînement et d'évaluation de la performance. Mais encore faudrait-il qu'on le masque et qu'on le cache au coureur. Ça permettrait au coureur de retrouver sa pleine concentration par rapport à la route qui est devant lui.
Je reviens sur le premier point que tu nous as donné. Comment on limite la vitesse? Il y a quoi comme mesure à donner, par exemple?
En limitant peut-être les braquets, en élargissant les guidons. Par exemple, les guidons, aujourd'hui, on voit qu'il y a des guidons de plus en plus réduits, de plus en plus aérodynamiques. On pourrait s'attaquer à la partie aérodynamique des vélos pour essayer de ralentir l'évolution. C'est possible de dire le poids du vélo augmente, c'est possible de dire on limite l'aéro sur les vélos. Regardez ce qu'on peut faire aujourd'hui sur un vélo de chrono, par exemple, en termes d'aéro. Bah, on va de plus en plus vite,
mais c'est revenir en arrière, Marc, puisque depuis des années, la technologie fait qu'on a essayé d'optimiser tout le temps.
Écoute, ce week-end, on a un bel exemple. On a les 24 heures du Mans. Quand ça va trop vite aux 24 heures du Mans, on trouve des solutions pour ralentir. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire en vélo?
Ouais,
on met une chicane, ouais. Il y a un autre point que j'aimerais souligner, c'est l'arrivée des sprints. Parce que là aussi, il y a des sacrés castagnes. Quand ça tape très fort. Moi, j'ai souvenir de l'année dernière. Il y avait une espèce de polémique qui était née avec Jasper Philipsen sur son comportement. Au vu de la nouvelle réglementation, est-ce que tu penses que cette année, un Jasper Philipsen va pouvoir faire comme il veut et ce qu'il veut et être aussi dangereux que l'année dernière?
Ah, il n'a pas été sanctionné l'année dernière. On a sanctionné
c'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on va... Tu vois, est-ce que ça donne un moyen de sanctionner un peu mieux?
Oui, alors sur le fond, l'idée du carton, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, il faut l'essayer, il faut tester, on verra ce que ça donne. Après, encore faut-il que les arbitres arbitrent de la même manière pour tout le monde, en toutes circonstances. C'est un peu comme parfois en football, où il y a des stars qui sont quand même un peu plus protégées que d'autres joueurs.
Tu auras toujours ce problème.
Ou un peu moins sanctionné que d'autres.
Donc on est d'accord, Marc.
Malheureusement, tu prends pas.
On est quand même d'accord que là, on est sur un effet de com' plus qu'autre chose pour l'instant.
Ouais, non, mais c'est un bon début quand même, parce qu'il se passe des choses.
Objectivement.
Non, le carton, c'est
beaucoup. Mais objectivement, l'idée du carton et d'une mise en place du carton, ça peut être intéressant. Moi, j'ai regardé la série Netflix sur certains épisodes, notamment par rapport à l'attitude des équipes de sprinteurs. Je pense que le carton jaune ne fera pas de mal à ces gens-là.
Ouais, ok, donc le carton jaune, ok. Parce que tu disais, on stigmatise les coureurs. Et je me souviens que même de grands coureurs avaient pris la parole pour dire, mais c'est notre faute aussi la vitesse. Notamment Van Der Poel, qui est quand même un des illustres coureurs de cette saison. Il a dit, mais c'est aussi notre faute. Pogacar aussi l'avait dit. Non, mais est-ce que.
Oui, mais tu peux pas demander aux coureurs de ralentir.
J'entends, mais par exemple sur la question des oreillettes, est-ce que les coureurs qui se sont habitués à ça, je veux dire, tous les jeunes coureurs que tu as dans ton équipe, ils ont toujours. Quasiment toujours couru avec des oreillettes.
Non. Les jeunes, non, il n'y a pas d'oreillettes. Donc on peut se séparer d'oreillettes.
Ils ont maintenant cette habitude.
L'oreillette, j'ai envie de dire que le combat de l'oreillette est presque déjà trop ancien. En fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est les capteurs de puissance et les GPS sur les vélos.
C'est les écrans. Ouais. C'est les écrans.
Je me souviens quand tu étais venu dans cette émission pour commenter évidemment toutes les chutes à répétition et on en avait beaucoup parlé dans les GG du sport. Tu étais avec nous, Marc. Tu disais aussi, mais moi, je prends ça aussi pour moi parce que c'est aussi de ma faute. C'est-à-dire que les directeurs sportifs donnent comme consigne aux coureurs de vite aller se placer quand il y a un point précis. Donc, nous aussi, on a notre part de responsabilité. Est-ce que ces mesures vous restreignent ? Est-ce que ces mesures vous mettent aussi, vous, devant vos responsabilités ?
Non. Non, la responsabilité et le dialogue et les échanges et les prises de conscience, on les fait quand on est au repos dans le canapé ou devant une bière. Mais quand on est en compétition, quand on est dans la voiture ou quand on est sur le vélo, on oublie et il faut faire abstraction de tout cela pour pouvoir être performant. Donc, une fois qu'on est dans l'action sportive, quelle qu'elle soit, on est dans un autre schéma et on fait abstraction de tout ce qu'il y a au niveau du fair play, de dire je ralentis pour préserver ma sécurité et celle des autres, ça j'y crois pas une seconde.
Marc, est-ce que les capteurs au niveau des écrans, est-ce qu'il y a beaucoup de directeurs sportifs qui sont contre, qui sont prêts à militer pour les enlever, parce que c'est ça le vrai problème.
Il y a une majorité qui veut les garder.
Et voilà, donc c'est le chat qui se mord la queue, quoi.
Mais c'est hyper
après, c'est au président de l'UCI de taper du poing sur la table, hein. Mais bon, il est un peu occupé, il est aussi président du CONSF.
David Lapartient, oui.
Il y a beaucoup de boulot, mais je pense qu'il en est conscient. Il en est conscient, sauf que c'est difficile de faire l'unanimité
par rapport à tout ça. En fait, c'est même pas une question de ça. Si on t'entend bien, Marc, c'est aussi un problème de politique économique.
Oui. Bien sûr, c'est-à-dire tu peux pas dire aux marques faites des vélos moins rapides.
En fait, vous êtes coincé. C'est-à-dire qu'avec toute la technologie qu'il y a maintenant à faire du vélo, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Bah oui, c'est
on pourrait revenir en arrière.
C'est trop loin.
Est-ce qu'il n'y a pas trop de lobbying ? Non, mais
on pourrait revenir en arrière si on avait une fédération internationale extrêmement puissante comme peut l'être une fédération de sport automobile.
Ouais, j'allais te dire, ils sont capables de le faire en sport automobile.
Après, il y a des enjeux
économiques. Tu veux dire par là que le président de l'UCI, il n'est pas assez puissant, il ménage la chèvre et le chou parce que
ça
pourrait affluer sur son poste par rapport à d'autres fédérations. Il n'a pas le choix, oui. Mais c'est scandaleux parce qu'on parle de santé d'athlète, on parle de.
Mais
de vie ou de mort, quoi, à un moment donné.
Ouais. Il est coincé, il est obligé de
ménager. Oui, mais personne n'est coincé quand il s'agit de blessures, quand il s'agit de possibilité de mourir quand on fait quelque chose.
Mais il est coincé par rapport à quoi ? Aux enjeux économiques ?
Bien sûr.
Donc.
Bien sûr, si demain matin, le président du CI dit voilà, les vélos. La vitesse des vélos est trop importante, il faut réduire tout ça. On enlève les freins à disque.
On enlève les écrans.
On enlève les écrans et tout, mais il ne va pas pouvoir. Il ne va pas être capable de le faire.
Oui, voilà, c'est ça. C'est affreux.
Et pourquoi il ne peut pas le faire ? C'est ça que je ne comprends pas.
Mais
c'est pourquoi
il peut pas
l'impact économique. La puissance économique de tout ce qu'il y a derrière fait que c'est difficile de mettre ça en place.
Et puis j'imagine que les différentes équipes ont signé des contrats, David.
C'est ridicule. Je ne comprends pas. Je veux dire, quand par exemple, tu es un exécutif à la tête d'un pays, quand les voitures roulent trop vite parce que les gens meurent sur les routes, tu réduis la vitesse. Ben, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau du sport ?
Mais tu réduis la vitesse, mais tu ne réduis pas. J'entends ce que tu veux dire.
Tu réduis pas la puissance des voitures, mais tu réduis pas
les moteurs.
Le moteur,
ça a toujours été le même problème.
Mais là, justement, on a cette capacité. Alors, je vais prendre un autre exemple. Pourquoi ils le font en F1 ? Il y a des morts en F1. On dit voilà, on met des protections, on renforce
les choses autour des.
Mais pourquoi on le fait pas ? C'est ça que je comprends pas.
Il y a un point, je trouve hyper important. Peut-être que là, la technologie n'est pas encore assez avancée. Mais on parlait beaucoup des airbags dans le dos, qui dès que tu touches le sol, se déclenchent. Oui. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures mesures pour sécuriser les pilotes.
Sauf que, on s'attaque au vrai problème de base. Le problème de base, c'est que ça va
trop vite.
Reprends ta bande-annonce de ce que tu nous as présenté tout à l'heure au début du sujet de la sécurité. T'as Christian Prudhomme qui dit « ça va trop vite ».
Et personne ne fait rien. Ça va trop vite et personne ne fait rien. C'est incroyable.
Voilà.
Bon. Alors, est-ce que par exemple, alors puisque Lucie est pas capable de le faire, est-ce que Christian, parce que c'est un organisateur privé, je crois, il me semble, d'une course privée, le Tour de France, c'est une course privée, serait en mesure de mettre en place des systèmes qui permettent. Pourquoi ?
Il est organisateur de compétition.
Oui, il y a des règles.
Ah oui, mais il peut mettre un règlement. Il met bien un règlement. Il y a un règlement intérieur.
Sous la réglementation de l'UCI.
Il pourrait mettre un règlement intérieur technique.
Il peut pas.
Marc.
Tout puissant organisateur qu'il est, il est dans le giron de l'UCI et sous la réglementation de l'UCI.
Bien sûr.
Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Merci beaucoup, ouais, Marc. Marc, on est à deux semaines du Tour de France là. Oui. On est bien dans la FDJ là. On va gagner, on va gagner.
Alors, on est comme tout le monde, on est au boulot et on essaie de peaufiner les choses pour être le plus performant possible dans une quinzaine de jours.
Arrête, Marc, t'es devant les 24 heures du Mans, on te connaît.
On te connaît.
Oui, c'est vrai, en plus.
On était avec toi l'année dernière.
C'est
on
vrai,
on te connaît,
pas.
Marc. Merci d'avoir été avec nous, Marc.
Salut,
c'est toujours
Marc.
Chouette de.
Salut, les amis, à bientôt.
Et bonne chance pour le Tour de France, évidemment, qui débute dans deux semaines. On sera là sur RMC pour suivre les performances de nos champions français, oui, de la FDJ, mais évidemment, du Tour de France dans la globalité. D'ailleurs, il y aura une radio digitale, un spécial Tour de France comme l'année dernière.